Bienvenidos a este informativo de Radio
Live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bienvenue à tous dans Accent du Monde. Ce soir, avec pour la rédaction anglaise, Christina Okello.
Good evening.
Pour évoquer une brouille diplomatique entre la France et l'Iran. Pour la rédaction persane, Azadeh Valla.
Dorut Balchomo.
Au sujet de la grève des camionneurs qui touche en ce moment l'Iran. Et puis pour la rédaction brésilienne, Stéphane Rosenbaum.
Boa noite.
Pour nous parler notamment de l'élection présidentielle au Brésil qui se déroulera ce dimanche. Bonsoir à tous. Mais tout d'abord, l'actualité du jour, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix. Ils ont risqué leur vie pour lutter contre les crimes de guerre. Denis Mukwege, médecin congolais, et Nadia Mourad, ancienne esclave du groupe État islamique, se sont vus attribuer la plus prestigieuse des distinctions internationales, à savoir le prix Nobel de la paix, ce vendredi pour leur lutte contre les violences sexuelles. Et Christina Okello, les Nations Unies ont salué une annonce fantastique qui semble redonner du sens à un prix auquel certains ne croyaient plus.
Oui, certains n'y croyaient plus, Adrien, parce qu'il y a eu des lauréats qui ont déçu. Le cas le plus flagrant est celui de la birmane Aung San Suu Kyi, l'opposante historique reconnue pour sa lutte non violente pour la démocratie contre une junte militaire au pouvoir, a perdu de sa superbe depuis sa consécration en 1991. Une consécration qui a fait le tour du monde parce que lors de la cérémonie, il y a eu une chaise vide sur le podium pour montrer son absence. Elle était absente car à l'époque, la dame de Rangoon était encore en résidence surveillée. Mais depuis, elle accumule les maladresses. Son silence face à la répression visant les Rohingyas, cette minorité musulmane, victime selon l'ONU d'un génocide ethnique, choque l'opinion publique à tel point que certains détracteurs demandent au comité Nobel de lui retirer son prix.
Car le prix n'est pas infaillible, même son fondateur Alfred Nobel n'était pas infaillible.
Oui, c'est exact. N'oublions pas que Nobel était aussi l'inventeur de la dynamite et s'il a créé la fondation Nobel au départ, c'était avant tout pour sauver son honneur et laisser une meilleure image de lui-même. Donc, personne n'est parfait, y compris le lauréat, prenant le cas du Quartet de la paix en Tunisie. En 2015, ces quatre acteurs de la société civile ont été récompensés pour leur contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste permettant à la Tunisie d'éviter une guerre civile. Mais depuis, le dialogue national qu'ils ont su inspirer stagne. Et pour Mansef Chaïk Rourou, un professeur à HEC à Paris, les attentes du prix Nobel étaient trop élevées au départ.
There is a feeling that people expected a lot.
Alors, dites-nous ce que dit Mansef Chakrou.
Il explique que les gens attendaient beaucoup du quartet tunisien. Sa mission, dans un premier temps, était de choisir un premier ministre capable de sortir le pays de son marasme économique et politique. Ça a été fait, sauf qu'aujourd'hui, le premier ministre, en l'occurrence Youssef Chirac, s'accroche au pouvoir alors qu'il était censé de laisser sa place aux autres. Chakrou explique aussi que l'octroi du prix Nobel de la paix est aussi un choix éminemment politique. Le comité Nobel a voulu éviter une guerre civile en Tunisie et voir une transition pacifique se réaliser dans ce berceau de la démocratie que portaient tous les espoirs après le printemps arabe. Ça a envoyé un signal fort à l'époque. Mais comme l'explique Chaïk Rourou, ce n'est pas au comité Nobel de dicter la politique d'un pays. Écoutons-le de nouveau.
Politically, the Nobel Committee.
Alors, Christina, en l'occurrence, il explique quoi, là,
Mansef? Il explique encore que ce n'est pas au comité Nobel de faire le boulot des autres à leur place. Si on veut construire une société démocratique et plus efficace, il va falloir bien plus qu'un prix, peu importe son prestige. Mansef Chaïkrou rajoute que la Tunisie ne doit pas se reposer sur ses lauriers juste parce qu'elle a été récompensée. Le prix était un début, non pas une fin en soi. Lorsque la Tunisie, dit-il, aura trouvé la bonne équilibre entre la démocratie et une économie qui profite réellement à tout le monde, elle pourrait être fière d'elle-même. Et là, oui, un prix Nobel sera justifié.
Merci Christina Okello de la rédaction anglaise. Je me tourne vers vous, Stéphane Rosenbaum, pour la rédaction brésilienne. Car depuis 1901, le prix Nobel a déjà eu plus de 900 lauréats, mais aucun Brésilien. Et c'est quelque chose dont on parle souvent au Brésil.
En effet, surtout quand nos voisins argentins en ont 5, dont 2 Nobel de la paix. Le Chili et la Colombie en ont 2, le Mexique 3, le Guatemala 2 et la Venezuela 1. Même de tout petits pays comme les îles Féroé, le Luxembourg, la Lituanie et la Birmanie ont reçu un Nobel. Une recherche rapide sur Internet montre plusieurs articles qui questionnent cette absence d'un pays aussi grand et peuplé comme le Brésil. Quand le sujet est lié aux sciences, les explications gravitent autour de l'absence de financement dans la recherche. Mais ce n'est pas le seul argument. Récemment, l'ingénieur Osiris Siouve, ancien ministre et un des fondateurs du constructeur aéronautique Embraer, interviewé par la télévision publique brésilienne, a raconté que lors d'un dîner à Stockholm avec trois membres du comité responsable par l'attribution des Nobel, il leur a posé la question pourquoi le Brésil n'a jamais eu de Nobel. Osiris dit que d'abord, personne n'a voulu répondre, mais qu'au bout du troisième verre, un d'entre eux a dit « Le Brésil est un destructeur de héros. À chaque fois qu'un Brésilien est nommé contrairement à d'autres pays, il ne se fait que descendre par les siens. Jamais aucun soutien du peuple brésilien. »
Et pourtant, Stéphane, le Brésil n'était pas loin d'un premier prix en 1960.
Et oui, tout s'est joué sur une histoire de service militaire obligatoire. Le biologiste britannique d'origine libanaise Peter Brian Medawar a reçu le prix Nobel de médecine en 1960, pour ses travaux sur le système immunitaire et les mécanismes d'acceptation ou de rejet des greffes d'organes. Ce dont peu de personnes se souviennent, c'est que Sir Peter est né au Brésil, plus exactement à Petrópolis, dans l'état de Rio de Janeiro, où il a vécu jusqu'à ses 14 ans. Le Brésil, utilisant le droit du sol, Medawar était donc bel et bien brésilien, même s'il a choisi l'Angleterre pour continuer ses études. Alors pourquoi Peter Medawar ne l'était plus au moment du prix Nobel? Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu arrêter ses études pour faire le service militaire. Du coup, il a été déchu de sa nationalité brésilienne. Le pire, c'est que quand il a reçu le prix Nobel, personne au pays ne s'est rappelé de tout ça pour au moins essayer de lui rendre sa nationalité, ce qui aurait permis au Brésil de voir ainsi son premier lauréat.
Stéphane Rosenbaum, Azadeh Vala pour la rédaction Personne. Dites-nous tout d'abord, combien d'Iraniens sont lauréats du prix Nobel?
Une seule, le prix Nobel de la paix a été attribué à Shirin Ebadi le 10 octobre 2003. Elle est la première et la seule iranienne et la 11e femme à recevoir ce prix depuis sa création en 1901. Elle a remporté ce prix pour ses efforts en faveur des droits de l'homme, surtout des droits des femmes et des enfants.
Alors, comment les Iraniens ont-ils réagi face à cet événement?
En général, les Iraniens venus de différents horizons politiques ont reçu avec joie et fierté la nouvelle et ont félicité Shirin Ebadi, qui n'était pas très connue du public à l'époque. Ils ont mis beaucoup d'espoir dans ce qu'elle serait leur voix sur la scène internationale. À son arrivée à l'aéroport Mehrabad, le 14 octobre 2003, Shirin Ebadi a reçu un accueil passionnant et extraordinaire de la part des milliers d'Iraniens, majoritairement femmes. Ces Iraniens portaient un foulard blanc, symbole de paix, et tenaient à la main un bouquet de fleurs et un portrait d'elle. De nombreux automobilistes avaient abandonné leur voiture sur la route qui menait à l'aéroport pour s'y rendre à pied. La foule l'applaudissait et criait de joie. Elle scandait des slogans en appelant spécifiquement à la libération des prisonniers politiques et au respect des libertés publiques.
Alors, dites-nous, après 15 ans, tout cet enthousiasme persiste-t-il encore?
On n'a pas fait un sondage à ce sujet, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une convergence d'opinion. Certains Iraniens voient toujours en elle une militante des défenseurs des droits de l'homme et sont fiers d'elle. Pour autant, aux yeux de certains d'autres, elle n'a pas fait fructifier son prix Nobel de la paix. Il trouve ses discours pleins et conservateurs avant et après la réception du prix Nobel. Ils disent qu'on ne lui connaît pas une sortie médiatique, une déclaration publique ou une lettre ouverte datant avant la réception du prix Nobel au sujet des personnes soumises à la charia ou la loi du talion. On lui reproche également de se soucier davantage des droits de l'homme dans d'autres pays du monde que dans son propre pays. Elle est surtout critiquée pour sa réponse en 2003 à la question sur le port du foulard qui suscitait de vifs débats en Europe, car elle a déclaré qu'elle portait le foulard dans son pays parce que la loi l'y obligeait, mais qu'elle s'en dispensait en France parce qu'elle avait le choix, en oubliant défendre la liberté et le droit vestimentaire des femmes iraniennes.
Azadeh Vala de la rédaction Personne.
20 degrés Paris, 20 degrés.
Accent du monde. Adrien Delgrange.
À l'écoute de Radio France Internationale. Parlons à présent de cette brouille diplomatique entre la France et l'Iran. Avec vous, Christina Okello, un projet d'attentat en France, commandité selon le Quai d'Orsay par les services de renseignements iraniens, a mis à mal les relations entre les deux pays. Alors si Téhéran dément toutes les accusations, il n'en demeure pas moins que ces tensions font planer le doute sur la sauvegarde de l'accord nucléaire iranien, notamment depuis le gel cette semaine, Christina, des avoirs iraniens par les autorités françaises.
Oui, tout à fait. La France a gelé ce mardi les avoirs de deux ressortissants iraniens, mais aussi d'une entité du ministère iranien du renseignement. La France les accuse d'être derrière le projet d'attentat déjoué en juin dernier contre un rassemblement d'opposants. À la rédaction anglaise, nous avons voulu comprendre pourquoi la France s'en prend à des intérêts iraniens alors qu'elle œuvre en coulisses pour sauver l'accord sur le nucléaire, un accord que les États-Unis font tout pour détruire. Et nous avons posé cette question à Karim Lahidji, président de la Ligue iranienne, un groupe d'opposition en exil à Paris. Et il dit que le soutien de la France en faveur de l'accord nucléaire iranien ne donne pas à Téhéran le feu vert pour faire ce qu'il veut sur son territoire. L'interview, malheureusement, est en français. Écoutons un extrait.
C'est pas nouveau. Depuis des années, même dans les années 80, c'était la position de la France sous différentes présidences et sous différents gouvernements. D'une part, avoir...
Donc, juste pour résumer ses propos, il explique en fait que depuis les années 80, la France a toujours mené une politique un petit peu à double tranchant avec l'Iran, une politique un petit peu pas très cohérente. Et c'est la différence aussi ne date pas d'hier. Et selon un autre expert, Mitchell Belfer, directeur de l'Eurogolf Information Center à Rome, ces différends ne devraient pas envenimer la relation commerciale. Écoutons Mitchell Belfer.
These episodes, they kind of create a degree of tension, and then it's back to business as normal.
Dalfer reconnaît que ce genre d'histoire crée des tensions même entre les meilleurs alliés, mais il dit aussi que la France est prête à surmonter ces turbulences, car elle voit en Iran un Eldorado commercial, à l'heure où les États-Unis sont en train de serrer le robinet contre Téhéran à travers des sanctions. Dalfer explique que la France pourrait s'engouffrer dans le vide laissé par les Américains.
Alors enfin, ce qui est intéressant, Christina, sauf que bien il y a des entreprises françaises, comme par exemple Total, qui sont plutôt en train de fermer leurs usines à Téhéran et de rentrer en France.
Oui, c'est vrai, on ne transige pas avec les menaces américaines. Depuis que Donald Trump a dénoncé l'accord nucléaire et confirmé qu'il pénaliserait lourdement tout le pays qui échangerait avec l'Iran, les entreprises ne voient plus Téhéran comme un Eldorado.
Merci Christine Okello. On va passer à un autre sujet. Ce dimanche, les Brésiliens iront aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Tous les derniers sondages montrent que la victoire est à portée du candidat d'extrême droite. Il s'appelle Jair Bolsonaro. D'ailleurs, Stéphane Rosenbaum, un scénario de victoire déjà au premier tour, commence à voir le jour.
Effectivement, en trois jours, Bolsonaro est passé de 32 à 35% des intentions de vote selon les derniers sondages. Le politologue Leonardo Barreto de l'Université de Brésil, qui jugeait jusqu'à maintenant peu probable que nous ayons un gagnant dès ce dimanche, reconnaît que le scénario commence à changer. Il dit que tout va dépendre du mouvement appelé vote utile, où les électeurs qui jugent une victoire du PT, le Parti des Travailleurs de Lula, comme la pire situation possible et migrent vers Bolsonaro. Tout pour essayer une victoire dès le premier tour, pour éviter une course plus serrée par la suite. Barreto souligne que depuis le début de la semaine, on aperçoit clairement ce mouvement. Hier, l'Institut Datafolha accréditait Bolsonaro de 35% au premier tour, soit 13 points de plus que le candidat de gauche Fernando Haddad.
Avec des idées et des discours très extrêmes, Jair Bolsonaro n'aurait-il pas des difficultés pour faire des alliances dans le Parlement brésilien ?
Ce sera un vrai challenge pour le candidat d'extrême droite, même si quelques groupes ont déjà annoncé leur appui. La rédaction brésilienne d'RFI a interviewé le politologue brésilien Jorge Zaveluche, qui assure que d'autres candidats auront les mêmes problèmes en cas de victoire.
Tanto para Bolsonaro como também para Haddad. Os dois...
Il dit que c'est quelque chose qui inquiétera Bolsonaro, mais aussi Fernando Haddad. Les deux auront des grandes difficultés à trouver des partis qui les appuient. Mais c'est sûr que Bolsonaro, avec un discours anti-establishment, rencontrera plus d'obstacles, car il critique par exemple le candidat centriste Geraldo Alckmin et tous les partis qui le soutiennent. Donc il devra obligatoirement trouver des compromis. Mais si jamais il gagne au premier tour, il aura un grand pouvoir de négociation, car il pourra faire pression sur les députés qui ne le soutiennent pas dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on arrive au pouvoir, on diminue les discours si extrêmes qui sont surtout utilisés par la campagne, pendant la campagne.
Alors, enfin, dites-nous, Stéphane, comment réagissent les marchés financiers brésiliens?
Alors, le programme libéral du candidat d'extrême droite séduit les investisseurs. Après une période de turbulence et de grande nervosité sur le marché d'échange et à la bourse, due aux grandes parties à l'incertitude électorale, le calme est revenu ces derniers jours sur la place de São Paulo, la capitale économique de la première puissance d'Amérique latine. Le dollar flirte toujours avec de plus hauts historiques face au real, mais la monnaie brésilienne a arrêté sa chute. Gerardo Alckmin, un ex-gouverneur de l'État de São Paulo, était le préféré de l'establishment financier, mais il n'a jamais décollé dans la campagne. Face au risque d'un retour au pouvoir du Parti des travailleurs, les marchés se sont tournés en masse vers l'ex-capitaine Bolsonaro, en dépit de ses tentations autoritaires, de son passé de nationaliste étatiste et de son ignorance revendiquée de l'économie. Alors l'atout de Bolsonaro, c'est surtout l'économiste Paulo Guedes, un ancien de l'Université de Chicago, donné comme son prochain ministre de l'économie. Le programme du candidat porte la marque de cet ultralibéral. Il veut privatiser des centaines d'entreprises publiques pour réduire de 20% la dette publique, introduire un régime de retraite par capitalisation, éliminer le déficit budgétaire dès la première année et baisser fortement les impôts.
Stéphane Rosenbaum. Tout autre sujet à présent qui a retenu votre attention, Azadeh Valla de la rédaction Persane d'RFI, c'est cette nouvelle série dans la grève générale qui concerne les chauffeurs routiers en Iran.
Oui, la grève des chauffeurs de camions en Iran est entrée dans sa 14e journée aujourd'hui. Cette année, le premier cycle de leur grève a commencé le 22 mai et a duré 10 jours. En l'absence d'un signal fort des autorités adressé aux protestataires sur leurs revendications, la grève a été reprise et reste maintenue il y a maintenant 14 jours. Elle s'est étendue à au moins 289 villes de 31 provinces du pays.
Alors Azadeh, dites-nous quelles sont les revendications des routiers?
Dans son appel pour faire grève, l'Association nationale des coordinateurs des chauffeurs a formulé 15 revendications.
Alors, c'est la voix de cette membre de la CGT qui dit, Azadeh.
Parmi les revendications des chauffeurs de camions, on peut citer l'augmentation des pensions de retraite et de la pénibilité du travail, la baisse des prix des matériaux et des pièces de rechange des poids lourds, la hausse des tarifs du transport routier, la baisse des frais de transport et le mauvais état des routes.
Alors, les routiers iraniens en grève ont-ils gagné le soutien de leurs collègues mondiaux?
Oui, ils ont reçu le soutien officiel de l'ITF, la Fédération internationale des ouvriers du transport, et des Teamsters, le syndicat des camionneurs américains. En France, la CGT Transport a exprimé sa solidarité avec les grévistes au mois de mai et juin. En ce qui concerne la réaction des syndicats français face à cette nouvelle vague de protestations, ils sont actuellement en train d'étudier le cas.
Et les autorités ont-elles réagi face à la grève?
Oui, elles ont fait des promesses. Toutefois, de nombreux grévistes et leur soutien sur des réseaux sociaux ont été menacés ou arrêtés. Certaines autorités de la République islamique d'Iran, par exemple le procureur général Mohammad Jafar Montazeri, ont menacé les grévistes et ont laissé entendre qu'il serait possible de leur infliger la peine la plus lourde, c'est-à-dire la peine de mort pour menace à la sécurité nationale. Elles disent d'après ces informations, presque 120 camionneurs qui ont été arrêtés dans différentes villes d'Iran ont fait la grève de la faim.
Ainsi s'achève Accent du Monde. Merci de l'avoir écouté où que vous soyez sur la planète. Pour la rédaction anglaise, Christina Okello. Pour la rédaction persane, Azadeh Valla. Et puis pour la rédaction brésilienne, Stéphane Rosenbaum. Mise en onde, Valentin Vaner. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en en anglais.
Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours, Universal Time, every day.
Écoutez RFI en anglais à Kingston sur 96.5 FM et sur en.rfi.fr.